qu'en fait, Esprit d'Anchorage ou pas, à la fin, comme après la Seconde Guerre mondiale, Américains et Soviétiques ont pu négocier quelque chose, mais quand il s'agissait de faire la guerre contre la Russie, eh bien, c'est le bélier européen qui a été utilisé. Et je pense qu'on est dans la même configuration.
Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Balado de la Réplique. Balado de la Réplique, je le précise, enregistré depuis Genève, qui a été enregistré depuis Genève, et qui reçoit un invité, un expert. Si je vous dis Soros ou la société ouverte, ou encore globalisme et dépopulation, ou son dernier opus coécrit avec Youssef Hindi, Israël et la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme, publié en 2024, donc, eh bien, vous aurez reconnu Pierre-Antoine Plaquevent. Alors, je précise que ce balado de la réplique est un petit peu plus court que d'habitude, parce que, eh bien, autant la parole de Pierre-Antoine est dense, je dois dire que son agenda l'est aussi. Alors, je l'ai dit, sa parole est dense, ce qui fait que, en une trentaine de minutes, on a pu quand même aborder beaucoup de choses. Et je le répète, la parole de Pierre-Antoine Plaquevent est une parole d'expert. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément toujours en parfaite adéquation. Mais en tout cas, c'est une parole qui mérite d'être entendue. Aussi, je la lui laisse et je vous retrouve tout de suite. Merci. Alors aujourd'hui, je reçois Pierre-Antoine Plaquevent. Pierre-Antoine, bonjour.
Bonjour.
Et merci, merci d'être là pour commenter un petit peu. Je vais vous demander de nous parler, tout simplement. D'abord, de nous parler de vous. Ça fait très longtemps que vous n'êtes pas venu. En fait, vous n'êtes venu qu'une fois. Et ici, vous savez, il faut frapper à la porte. Il faut s'imposer. Il faut dire, Jacques, voilà, il faut me réinterviewer parce que j'ai des choses à dire. Et vous avez, de toute évidence, des choses à dire. D'abord, comment allez-vous et comment va Pierre-Antoine au niveau de son activité de publication et autres?
Ben, ça va bien, je continue mon travail au travers, donc je suis à mon quatrième livre, et puis je continue...
Qui s'intitule ?
Le dernier s'appelle « Israël et la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme », coécrit avec Youssef Hindi.
Voilà. Oui, qui est quand même une valeur sûre en la matière.
Voilà. Et je continue donc mon travail au travers du site Strategica.fr, les différents réseaux sociaux liés à Strategica, et principalement mon compte Substack, pierre-antoine.substack.com, sur lequel je publie régulièrement pour les abonnés, c'est réservé aux abonnés, des dossiers, des articles réservés pour ce format-là, et aussi sur la revue Géopolitique Profonde, la revue papier de Géopolitique Profonde.
Voilà. Ça occupe bien la journée, tout ça. Hein.
Oui, voilà.
Ça occupe bien la journée. Bien sûr, on mettra les liens. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, Trump vient de frapper l'Iran récemment, à nouveau. Il vous a déçu, Trump ?
Alors, moi, ce que je voyais de... Enfin, forcément, ça ne peut que décevoir.
Non, mais je veux dire, est-ce que vous attendiez des choses...
Non, en fait, ce que j'attendais, c'était que... La grande expectative que j'avais, et c'est ce que j'avais exprimé à maintes reprises, c'est est-ce que, en gros, la tentative de césarisme qu'essaye de faire Trump pour sauver l'Amérique et reconfigurer la puissance géopolitique américaine, est-ce qu'elle serait assez réaliste pour se découpler du parasitage du sionisme politique et religieux? Voilà. Eh bien, on a vu que, en fait, non, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir de là, parce que, effectivement, on peut avoir la vision unilatérale, on se dit, bon, forcément, on savait qui étaient les financiers, les Sheldon Lettich et autres, mais ce qu'on pouvait voir, c'est qu'il y a... moi, j'analyse le césarisme politique, qui est en fait comment dire, le césarisme politique, c'est ce qu'avaient théorisé des gens il y a exactement un siècle, comme Spengler, qui disait que quand la démocratie de marché arrivait en crise politique majeure, du fait que le capitalisme, eh bien, transforme tout en marchandise mais soumet tout à la dette, y compris le politique, eh bien, pour tenter de sauver les meubles, le système peut devenir césariste. Et alors, on peut avoir une vision négative du césarisme, qui était celle de l'opposant au fascisme, qui était Gramsci, qui lui, bah, voyait le césarisme comme justement une tentative malsaine du capitalisme de se sauver, et puis une vision peut-être un peu plus positive, qui était peut-être celle de Spengler, qui disait, bah, c'est une tentative, dans des régimes qui ne sont plus traditionnels, d'essayer de revenir à quelque chose qui serait un peu plus traditionnel. Et je me disais que, vu je dirais la faillite structurelle presque des États-Unis d'avoir suivi le mondialisme politique pendant toutes ces années, eh bien, le césarisme, à un moment donné, serait confronté à ce choix aux États-Unis de soit continuer à suivre le sionisme, soit s'en démarquer. Et on voit que dans sa communication, Trump, à l'heure actuelle, est toujours obligé de mettre en scène une opposition à Netanyahou, parce qu'en fait, ça ne passe pas du tout du côté de la base MAGA, en
Ben,
fait.
il a été élu par ceux-là même qui voulaient justement une séparation, disons, voilà, qui voulaient que soient levées les obligations d'alliance inconditionnelle.
Exactement. En fait, il faut se rappeler que je me rappelle après la prise de pouvoir de Trump, la première rencontre avec Netanyahou avait offert une sorte de statue qui représentait un beeper d'or.
Alors ça, je suis très content. Excusez-moi de vous interrompre, Pierre-Antoine, parce que je suis très content que vous fassiez référence à ça, parce que moi, j'y fais référence très régulièrement et j'ai un peu l'impression de clamarrer in
Fashionable.
desertum. Et c'est très intéressant. J'avais notamment fait beaucoup référence à ce détail au moment, lors d'une de mes participations, enfin la seule d'ailleurs, à Ici Moscou avec Xavier Moreau. Et le jour, oui, non, de quoi tu parles, enfin bon, voilà. Et ça me paraît être symboliquement et politiquement un acte très fort. Alors vous l'interprétez comment?
Ce sont des messages envoyés par la plus grande. Enfin, le représentant politique de la mafia la mieux organisée dans les cercles de pouvoir contemporains. Enfin, je veux dire, offrir un beeper d'or comme ça enfin, de cet instrument qui a servi à cette opération de terrorisme pour abattre non seulement les cadres du Hezbollah, mais en fait plein de gens qui se trouvaient aussi au Liban à côté de ces gens-là. Donc, enfin, pour moi, c'est une menace claire. Surtout. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on peut voir une réponse. Et aussi, à ce moment-là, aussi Trump avait dit, bon, maintenant, on va déclassifier complètement ce qui a trait avec les dossiers en rapport avec l'assassinat de Kennedy. Donc, il y a toujours ce jeu-là, un petit peu aussi. Et donc, bon, aux États-Unis, le débat est complètement ouvert pour dire que oui, c'est le Mossad qui a fait assassiner Kennedy, par exemple. C'est des choses qu'ici, on voit. On n'entendra pas, enfin, sauf dans les médias de réinformation peut-être, mais aux États-Unis, enfin, toutes sortes d'analystes en parlent de ça. Donc il y a un peu, on a l'impression, et moi, l'analyse que je faisais comme d'autres, c'est de dire, bon, à un moment donné, il est impossible qu'il n'y ait pas réellement une confrontation et une ligne de divergence entre les intérêts de l'État américain et du projet, je dirais, trumpien, et du réalisme en fait trumpien et des intérêts et du millénarisme en fait sioniste qui se sert de.
Mais
Alors
alors.
je pense que la politique de Trump c'est de dire on va donner au maximum à Netanyahou et aux sionistes pour qu'après en gros on puisse les lâcher et qu'ils soient presque autonomes. Et c'est aussi ce que veut Netanyahou, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est maintenant ils savent, les Israéliens savent très bien qu'ils perdent leur soutien et en fait. Le crédit victimaire accumulé après la Seconde Guerre mondiale, maintenant il est proche de l'épuisement. Ça ne tient que par la peur du bannissement
Oui, le
social.
terrorisme intellectuel.
Voilà, oui, mais et du bannissement social et économique. En fait, c'est vrai que en Occident, ça tient à ça. Sinon, les opinions, y compris les opinions de droite aux États-Unis, maintenant, ne sont plus pro-israéliennes. Donc en fait, Netanyahou a fait même un discours, il dit maintenant on doit devenir nos atouts, en gros, c'est la technologie et le militaire. Et il dit on doit donc devenir une super Sparte. D'où l'accélération aussi des conquêtes territoriales environnantes, parce qu'ils se couplent. Alors il y a le projet du Grand Israël, il y a le projet théologico-politique, mais il y a le projet aussi, je dirais presque, d'espace vital, qui fait que s'ils
J'allais le
veulent
dire.
devenir réellement un acteur qui puisse devenir indépendant des États-Unis, mais il faut qu'ils atteignent la masse critique pour peser sur le jeu géopolitique local. Et ça va de pair avec une troisième chose, qui est que le projet gérer de la nouvelle oligarchie de la technologie actuelle, qui est de constituer des chapelets de deal État en quelque sorte, qui seraient un petit peu déconnectés des États eux-mêmes. D'où le projet de Jared Kushner et de son épouse enfin d'investir là en Méditerranée, au large de l'Albanie, je crois, le projet de Peter Thiel et du fonds d'investissement qui s'appelle, je crois, Pronomos Investissement, qui est de créer là aussi des sortes de cités-États, même au Groenland aussi. Donc en fait, et ça c'est récurrent hein, dans la nouvelle idéologie de la tech de droite, entre guillemets, c'est cette idée que finalement les super riches vivraient auraient cette espèce d'archipel à travers le monde de cités-États dégagées, de cités-États presque libertariennes, là où les peuples, eux, vivraient dans des formes d'États-continents cybernétiques dans lesquels ils seraient en quelque sorte enfermés. Voilà. Et je pense que la puissance d'Israël, dans ce cadre-là, serait un petit peu le centre de ce maillage un peu transnational et de cette reconfiguration là du pouvoir élitaire qui n'est plus le globalisme unipolaire qu'on a connu de 45 ensuite avec la chute du communisme et qui est un peu la version sorosienne, qui là serait une version plus autoritaire, dure. Et en fait, c'est toujours la même chose hein, au niveau géopolitique, c'est la thalassocratie qui se reconfigure et qui se prépare même, je pense, au choc terrestre, des puissances terrestres entre elles, hein, et qui eux seraient ben, en quelque sorte à l'abri sur leurs îles, leurs yachts, etc. Voilà, je pense qu'il y a cette idée-là qui est en train de se mettre en place. Et là-dedans, bon, ben,
Mais elle est viable, cette idée?
je pense que tout est viable quand on a le pouvoir et quand on a le moyen de le garder. Et quand surtout, alors ce qui est dramatique en fait avec le Trumpisme, c'est qu'en fait on se rend compte que ils ont une puissance de. En fait, ils arrivent à une contestation comme émerge à partir des années 2010, 2015 par là, etc. Donc ils ont une puissance d'arriver à canaliser, à créer des récits. Alors c'est ce que la RAND Corporation appelle la noopolitique. Nous, en grec, c'est l'esprit. Hein, donc c'est la guerre des narratifs. Et c'est
Oui.
celui qui a le meilleur narratif qui l'emporte. Who's story wins, ou un truc comme ça. Et ça s'appelle un des rapports de la RAND
Ouais, bien
Corporation.
sûr.
Et donc ils ont fait vraiment des analyses pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme récit pour arriver à. En fait, il faut capter les opinions et arriver à les canaliser vers ses propres intérêts. Et le problème, c'est qu'ils arrivent à faire ça et qu'effectivement, bon, bah, pour avoir et il s'agit pas. En fait, moi, j'ai pas cette analyse. Le problème, c'est qu'on a trop des. Moi, j'essaie vraiment d'avoir un point de vue analytique. Malheureusement, mais c'est logique parce que les gens cherchent des solutions. Ils ont trop un point de vue de supporter, de pro ou anti. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir les rapports de force. Et en fait, dans la logique des rapports de force, ce qui peut être positif ou négatif pour nous. Et dans le cas du Trumpisme, je disais que malgré le fait qu'effectivement, on a toujours ce mot un petit peu qui sort un peu trop facilement d'opposition contrôlée, mais je veux dire contrôlée par qui, pourquoi? Ce qui compte, c'est que le politique, c'est la gestion des rapports de force à tous les niveaux, hein, depuis le niveau local jusqu'au niveau je dirais, géopolitique et même planétaire, cosmopolitique. Donc il y a toujours des intérêts qui vont diverger. Et donc je pouvais penser que, à un moment donné, mais je pense que c'est toujours le cas. On le voit avec. À un moment donné, je pense que si ce projet de découplage, j'irais, pilotée, organisée entre États-Unis et Israël ne se produit pas, il va y avoir de vrais problèmes. Et en fait, il y a un siècle, il y a eu ces problèmes-là, en fait. C'est-à-dire que c'est l'international sioniste, bon, si son projet n'aboutit pas, ça peut aussi mal se passer, en fait.
Et ce projet a beaucoup de chances de ne pas aboutir parce qu'aujourd'hui, l'armée israélienne est quand même une armée malade.
Voilà.
Référez-vous à l'interview que j'ai faite avec l'entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec Marion Sigaud, où elle explique que le taux de suicide au sein de l'armée israélienne est considérable.
Oui.
Même Israël, et on l'a vu aussi à la période Covid, même Israël n'adhère plus à Israël. Je veux dire la population.
Ouais, alors ça c'est ambigu parce que quand même le soutien. Alors c'est peut-être que c'est difficile, mais il y a quand même une espèce de soutien fanatique à la comment dire à la de la population à ce projet. Et une partie de la population peut-être n'adhère pas, mais c'est pas la masse critique nécessaire pour arriver à enrayer la chose. Et surtout, il y a une fuite aussi des cerveaux et des gens qui étaient contre ou qui pouvaient se permettre de partir, qui sont partis. Donc
Oui, mais il y a
je
aussi,
suis
excusez-moi de vous interrompre, mais il y a aussi il y a beaucoup de fanatiques d'Israël qui se gardent bien de vivre en Israël, hein.
aussi, bah oui, ça c'est toujours
Donc,
le.
ça aussi, ça existe. Mais ce qui est vraiment, à mon avis, très intéressant, parce que le problème, c'est que, d'une manière générale, pardon si ça devient plus un débat
Ah oui, non, c'est
qu'une
très bien.
interview, c'est très bien, au contraire, c'est très intéressant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une manière générale, les États, la Russie, les États-Unis, les États n'ont pas tellement besoin, alors jusqu'à un certain point, c'est entendu, de l'adhésion de la population, puisque la population, vous avez parlé tout à l'heure de masse critique. En revanche, Israël, qui a vraiment besoin de poitrine, de chair à canon,
Oui, ça.
Eux, ils ont besoin de l'adhésion de la population. Et ça, c'est en train de changer considérablement en Israël. C'est-à-dire qu'en Israël, maintenant, il y a des gens qui, quand ils peuvent se barrer, ils s'en vont. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui sont sur place, ils commencent à vivre très très mal
Et puis il y a
ce
le
qu'on leur
paradoxe
demande.
de tous ces religieux qui aussi sont en fait, sont pour des politiques maximalistes face aux Palestiniens, mais ils ne veulent pas eux-mêmes participer à l'effort de guerre ou envoyer ou faire le service militaire ou être dans l'armée, et qui sont même exemptés de plein de choses. Donc c'est assez problématique. C'est effectivement un espèce d'État hybride. Et de toute façon, c'est un peu la convergence des opposés, hein, Israël, entre la Gay Pride à Tel Aviv et puis les sionistes religieux à Jérusalem. Mais je pense qu'il y a, comme il y a un niveau supérieur derrière, qui est en fait j'irais, le niveau religieux, mais au sens négatif, c'est-à-dire que je pense que c'est la façade en fait, toutes les idées. Enfin, comment dire, toutes les confrontations et les idées politiques, comme disait Carl Schmitt, sont toujours des idées religieuses sécularisées. Et en fait, bon, Israël qui en plus sort maintenant du sécularisme par le sionisme religieux, est l'incarnation d'un projet théologico-politique qui est l'opposé du christianisme et de l'universel. Donc, et qui a, on l'a vu avec l'affaire Epstein, qui a fait un maillage de corruption, et en fait ça marche comment ça? De la corruption et du terrorisme, d'où les Beepers d'or, voilà, etc.
Alors
Mais
justement, c'est...
c'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc on mouille les gens dans des choses compromettantes à un niveau que la morale réprouve, et d'un autre côté, on menace et on tue ceux qui s'opposent à ça. Donc on terrorise en fait les opposants ou ceux qui voudraient changer un peu d'alignement. Et c'est à ça que ça tient. Et donc derrière, je pense que pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du maléfique, en fait, hein. Donc si on doit regarder les pouvoirs politiques, sur quoi ils s'appuient, un pouvoir politique, en fait, s'appuiera toujours sur une vision du monde. Et cette vision du monde, elle va toujours, en fait, elle a un socle religieux. Et moi, c'est sur ça que je travaille, notamment pour les prochains livres et dans les prochains articles. C'est cette idée-là, qu'il y a toujours un socle métaphysique et religieux à toute forme de pouvoir politique. Même quand il est sécularisé, en fait, à l'arrière, il y a même si c'est pas conscient, même en fait, même complètement pour les dirigeants eux-mêmes, il y a cet arrière-fond-là.
Religieux
Et
ou secteur?
alors, je dis religieux au sens large. Ça peut être religieux positif ou religieux négatif.
Parce que vous qui c'est pas à vous que je vais apprendre, surtout vous qui travaillez, qui coopérez avec Youssef Hindi, c'est que quand c'est pas à vous que je vais apprendre que le récit biblique du grand Israël, c'était pas ça du tout. En réalité, le quand Israël aujourd'hui s'arc-boute sur le récit biblique pour justifier des conquêtes territoriales. Le problème, c'est que ces conquêtes territoriales, elles étaient conditionnées. Or, les conditions, Israël n'en respecte aucune. Il y avait des conditions de sagesse, il y avait des conditions de bien-être des peuples, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses.
En fait, c'est comme
Là, il semble qu'on veuille à la fois les conquêtes territoriales et le veau d'or.
mais en fait, c'est le veau d'or qui a gagné. En fait, quand on regarde l'histoire de l'Ancien Testament, il y a la guerre perpétuelle entre, je dirais, l'Israël des prophètes et l'Israël des idoles qui cherchent à reprendre le pas. Et notamment le culte de Baal et des idoles. Et on le voit à chaque fois, les prophètes, qu'est-ce qu'ils affrontent? Ils affrontent des rois qui tente de réintroduire le culte des idoles, parce que le culte des idoles amène un pouvoir immédiat plus simple. Donc ça peut être le veau d'or, après c'est Élie contre les prêtres de Baal, enfin c'est Ézéchiel qui en parle aussi au moment de la destruction du temple, etc. Donc c'est de la première destruction du temple, donc
Et en
c'est
finalité, le
récurrent.
Christ.
Et en finalité, le Christ, voilà, et l'arrivée du Messie qui est refusé et qui est tué.
C'est ça.
Et donc, ce que je veux dire, c'est que. Et donc, la lecture maintenant qui est faite par les sionistes religieux de la Bible, elle est effectivement manipulatoire. Et en plus, c'est comme la lecture de Daesh du Coran, c'est une lecture unidimensionnelle. Et on sait que dans le christianisme, il y a plusieurs niveaux de lecture des Écritures, jusqu'au niveau anagogique où on interprète les choses à un niveau spirituel. Eux restent au niveau, s'il y a des massacres des ennemis d'Israël, des Amalécites et autres, c'est pris comme vraiment, ce sont nos ennemis qui doivent être
Oui,
exterminés.
les
Il y a
Philistins,
plus,
faut les
voilà,
exterminer,
il n'y a plus le
etc.
contexte de l'époque qui était qu'effectivement, ils défendaient un dépôt monothéiste sacré au milieu de peuples qui pratiquaient eux justement peut-être des sacrifices humains et autres, et les prophètes essayaient d'éviter ça. Mais là, le dégagement d'Israël de cette, je dirais, de ce paganisme généralisé était très compliqué, et à chaque fois Israël retombait. Et les prophètes, bon, mais comme Moïse, voyaient que les Israélites retombaient là-dedans. Et à un moment donné, eh bien, comme ils ont refusé même le Messie, eh bien, finalement, ils se sont enfoncés complètement là-dedans. Et maintenant, c'est l'arrière-fond religieux, la guerre des religions. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment que l'Empire romain est devenu chrétien, à partir de là, tout comment dire, ce judaïsme qui n'est plus le judaïsme des prophètes, eh bien, va devenir subversif, souterrain. Et en fait, va essayer de corrompre la chrétienté dans laquelle il évolue, ou le monde islamique dans lequel il évolue, pour les dissoudre, et pour, à la fin, eh bien, en tout cas, c'est ce qu'ils ont réussi en Occident, eh bien, devenir eux le pouvoir théologico-politique central en Occident. Parce que si on regarde en Occident maintenant, qu'est-ce qui est. Plus rien n'est sacré. Mais à part Israël, plus rien n'est sacré, en fait. C'est-à-dire que même les lois, etc., tournent autour
Ah oui,
d'Israël.
il y a plus
Il y a une
le
sacralité.
seul tabou, c'est aujourd'hui,
Voilà.
c'est Israël. Alors, excusez-moi parce que
Oui.
je sais que le temps que vous nous accordez, et
Voilà.
je vous en remercie beaucoup, touche un peu à sa fin, et c'est dommage parce que j'avais encore plein de questions, mais je voudrais quand même aborder avec vous déjà revenir à Trump. L'été dernier, Trump et Poutine se rencontraient en Anchorage. En Alaska, donc c'est sur le territoire des États-Unis, et aujourd'hui on nous parle de l'esprit d'Anchorage. Est-ce que Anchorage a été, selon vous, trahi? Qu'est-ce que vous, qui êtes un observateur extrêmement éclairé, qu'est-ce que vous savez d'Anchorage? Et aujourd'hui, est-ce que Trump, finalement, a encore une fois déçu l'espoir qu'il représentait pour la Russie et pour la fin de cette guerre fratricide en Europe?
Moi, j'essaye toujours de recontextualiser les événements, je dirais, localisés dans l'espace-temps actuel, dans leur profondeur historique et géopolitique. Et si on regarde la politique, la géopolitique anglo-américaine sur le temps long, c'est quoi? Et sur les guerres mondiales précédentes, c'est de faire faire la guerre contre la Russie à l'Europe. Voilà. Et donc, en fait, esprit d'encore ou pas, à la fin, comme après la Seconde Guerre mondiale, Américains et Soviétiques ont pu négocier quelque chose, mais quand il s'agissait de faire faire la guerre contre la Russie, eh bien, c'est le bélier européen qui a été utilisé. Et je pense qu'on est dans la même configuration. Les Russes sont réalistes, ils vont discuter avec toutes les parties pour maintenir leur équilibre stratégique alors qu'ils sont attaqués de toutes parts, mais les Américains vont, comment dire, ont tout intérêt à essayer de faire croire constamment à la Russie qu'avec eux ils peuvent négocier et d'utiliser l'Europe comme un bélier et un Doberman contre la Russie, puisque eux, leur politique, c'est de couper l'Europe occidentale
C'est ça,
de la Russie, et ça passe par donc par cette ligne de tension qui va de la Baltique à la mer Noire, et maintenant avec finalement à la mer Rouge, et juste maintenant avec le détroit d'Ormuz jusqu'à l'océan Indien, en fait. Hein. C'est
Donc
couper
quand
l'Eurasie de sa péninsule européenne, en fait.
Donc quand Poutine va en Corée, au fond, il n'y croit pas.
Alors ça, je ne sais pas s'il y croit ou il n'y croit pas. Là, c'est à des niveaux, je dirais, de décision auxquels je n'ai pas accès. Mais moi, si je regarde sur le temps long, je pense qu'il y a même une logique globale. C'est qu'en fait, on pourrait presque dire, c'est se rencontrer sur l'océan Pacifique, c'est presque... Il y aurait deux idéologies qui s'affrontent. Il y a l'atlantisme, c'est la guerre, et le pacifisme, c'est voilà,
Comme son nom l'indique, c'est la
c'est
paix.
la paix. Et donc, parce qu'en fait, il y a un basculement du centre du monde, de l'Atlantique vers le Pacifique, et notamment vers l'Asie du Sud-Est aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment, maintenant, si on voit les choses à un niveau global, l'affrontement, il est la ligne de feu, hein, et elle est du côté. Je dirais la façade atlantique principalement. Et toutes les guerres mondiales, elles se finissent en Europe et elles ont lieu avec chaque fois la tentative malheureuse de créer une sorte de super-État européen qui, pour se justifier, doit faire la guerre à la Russie. Napoléon a tenté ça, Hitler a tenté ça, et
Avec
maintenant,
le succès qu'on
voilà,
connaît.
avec les succès qu'on connaît, et maintenant Macrominus veut tenter la même chose avec, et à chaque fois, je dirais, à un plan idéologique toujours plus bas, en fait. Hein. D'abord, c'était au nom d'un peu des idéaux maçonnico-révolutionnaires, puis c'est au nom de l'idéologie raciale, et maintenant, c'est au nom de comment dire, la quatrième révolution, le Great Reset, et donc,
Oui, la Gay Pride et tout
voilà.
ça.
Oui, mais comprendre une chose, c'est que cette guerre-là, elle est nécessaire pour les élites occidentales et européennes pour transformer le système européen et justifier, comme le Covid, eh bien la mise en coupe réglée
Des
des
libertés,
libertés, de
ouais, bien
l'Europe,
sûr,
etc.
bien sûr.
Donc, alors maintenant, ce que je me dis, c'est jusqu'où les élites, par contre, en gros, si on avait une analyse marxiste, jusqu'où la bourgeoisie, je dirais russe ou chinoise et autres, ont intérêt à se confronter réellement avec la bourgeoisie judéo-occidentale, en un seul mot, judéo-occidentale. Donc c'est un petit peu ça le mystère, sachant que côté occidental, on a effectivement des fanatiques aux commandes, puisque leur projet est millénariste, et qu'en fait, eux, pour eux, ce qu'il y a en face, c'est finalement, ce sont ces libéraux qui en fait utilisent le nazisme aux portes de l'Europe et qui sont ultra-libéraux, immigrationnistes ici, mais c'est comme Borrell qui disait, voilà, l'Europe c'est un jardin et à l'extérieur c'est la jungle. Donc ce sont des gens très libéraux qui aiment l'humanité, mais bizarrement à l'extérieur c'est presque des sous-hommes. Donc savoir jusqu'où ils seront prêts à négocier avec les bourgeoisies extérieures au monde occidental qu'ils gouvernent déjà, c'est un petit peu ça l'inconnu pour les années à venir.
Avant-dernière question, Pierre-Antoine Plaquevent. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie et les États-Unis peuvent faire la paix par-dessus la tête des Européens? C'est-à-dire qu'il serait plus facile d'aller de Moscou à New York, finalement, que de Moscou à Paris?
C'est déjà le cas en fait. Mais le problème, c'est que On ne peut pas faire confiance aux Américains. C'est, en fait, vous pouvez avoir les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est du en même temps, comme dirait Macron. C'est-à-dire en même temps, je négocie avec vous, nous, on est les Américains, on est responsables, etc. Et puis finalement, on donne aux Européens la charge de continuer la guerre. Et on peut s'en laver les mains et dire, mais ce n'est pas nous, c'est l'horrible Macron, etc. Et ça, c'est très ambigu parce que tous ces leaders européens sont des gens qui ont été choisis, au départ, sont des young leaders, etc. Ils sont issus de la matrice pro-américaine. Et maintenant, il y a cette politique qui consiste à faire croire que voilà, l'Europe est lâchée par les États-Unis. Mais en fait, non. L'Europe actuelle, ce n'est pas une Europe puissante. C'est le but, c'est d'être le croupion agressif et désindustrialisé des Américains et face à la Russie et plus largement à l'Eurasie. Mais c'était déjà le piège dans lequel était tombé Hitler, qui était intoxiqué par les élites anglaises de l'époque, qui lui faisaient penser que finalement, eh bien, les Germains pourraient s'entendre avec les Anglo-Saxons, les uns auraient la dominance des mers et les autres sur la terre, alors qu'en fait, le projet des élites financières de la City, ça n'était pas une entente avec l'Allemagne, c'était de faire s'entretuer les deux géants de l'époque, et surtout d'éviter de rompre le pacte germano-soviétique, et de faire s'entretuer les grandes puissances de l'époque pour ensuite, eh bien, sur ces ruines-là, reconstruire un nouvel ordre mondial. Et le projet reste le même pour ces gens-là. Ils préféreront les ruines. Alors, la différence, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a les armes de destruction massive, il y a les armes hypersoniques, etc. Mais encore une fois, voilà, le but des élites, ça va être d'essayer de garder le contrôle et d'éviter, elles, d'être prises dans ce feu-là.
Et dernière question, j'entends bien tout ce que vous dites, Pierre-Antoine Plaquevent, et est-ce que selon vous, les Russes sont conscients de ça?
Alors, je ne vis pas en Russie, donc je ne peux pas le savoir. Moi, j'ai l'impression que les Russes, enfin, il y a différentes catégories de Russes, mais le Russe moyen, lui, aurait plutôt, enfin, n'a pas d'hostilité envers les Occidentaux ou les Européens. Après, au niveau des gens qui prennent les décisions, enfin, en tout cas, des gens que je connais et avec qui je suis en rapport, oui, ils comprennent que l'Europe est utilisée comme un bélier, mais ils comprennent aussi qu'en fait, la problématique, c'est que les élites européennes ne sont pas des élites européennes. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et je ne sais pas si à tous les niveaux de décision en Russie, on le comprend, mais moi, les gens que j'ai vus ou que j'entends, même sur les médias, me semblent le comprendre, faire la différence entre. C'est un petit peu comme à l'époque, je dirais, du bolchevisme, hein, entre la population et les élites, ben, il y a un gap. Voilà, nous avons été victimes d'une révolution. Révolutions de velours successives qui ont remplacé les élites. Donc maintenant, on a des élites qui sont contre nos intérêts et qui effectivement sont là pour être utilisées comme un bélier contre la Russie. Après, le problème, c'est que quand on est conscience ou pas, quand on est attaqué, on doit se défendre. Donc à un moment donné, c'est la doctrine Karaganov, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il faudra une punition collective pour faire comprendre qui est le On ne se laisse pas faire. Mais ça, c'est intéressant aussi ce que disait Karaganov récemment, c'est que lui, par exemple, il parlait de ça. Il disait les élites européennes, comme elles sont contre leur population, presque ça ne sert à rien de frapper les populations européennes. Il faut frapper les élites européennes parce que là, elles comprendront. Bon, voilà. Mais tout ça est très problématique, hein, puisque effectivement, le fonctionnement des élites mondialistes, c'est celui du parasite. Donc, ils ont parasité la forme occidentale et maintenant, eh ben, ils se Vous savez, c'est un petit peu comme ce qui est répété constamment sur les médias. Oui, le Hamas se cache dans la population, etc. Mais en fait, enfin, on pourrait dire toutes les élites occidentales actuelles sont des parasites qui se cachent dans la population et on sert de bouclier humain et on le servira toujours plus de bouclier humain à mesure qu'ils feront grandir la tension avec la Russie.
Pierre-Antoine Plaquevent, il me reste à vous remercier. Désolé de cette interview un peu sprint, parce que je sais que vous avez peu de temps et je vous en suis d'autant plus reconnaissant. Alors, du coup, vous reviendrez.
Ah oui, je reviens, bien sûr.
Bon, eh ben,
I'll be
rendez-vous est
back.
pris. On se retrouvera. On aura l'occasion de reparler de toutes ces choses parce que ça me semble, votre éclairage me semble extrêmement intéressant et je suis absolument certain que nos auditeurs et lecteurs vont aussi le trouver passionnant. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Plaquemant.
Merci.
Thank you.